Je vous invite à tourner avec moi dans la parole de Dieu, dans la première épître de Pierre au chapitre 3, dans laquelle nous allons trouver une vérité glorieuse pour nos âmes ce matin. Et j'espère que vous allez sortir d'ici, eh bien, fort encouragé par ce verset. J'avais préparé un message strictement pour Noël, mais on va garder ça pour le 25. Ce matin, je pense que c'est important de nous rappeler, Pierre nous rappelle quelque chose d'important dans ce passage. Ça touche quand même à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça qui est important pour nous. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Alors, je vais la lire avec un mélange de Louis Segond et de français courant pour faciliter la lecture pour certains qui ne sont pas habitués avec le langage évangélique. Il est écrit, « Le Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort dans son corps humain, mais rendu à la vie par le Saint-Esprit. » À côté de moi, il y a un sapin de Noël, il y a un arbre de Noël que nous utilisons pour célébrer une heureuse occasion, celle de la naissance d'un bébé. Mais il y a un autre arbre, une vieille croix rugueuse que nous allons voir ce matin. Parce que la naissance, la crucifixion et le couronnement de Jésus-Christ sont intimement liés. Et j'aimerais ce matin regarder, c'est suite à différentes questions, ça va être une première partie du message, on continuera la deuxième partie la semaine prochaine, Dieu voulant. Mais le premier but, finalement, de la venue de Jésus, c'est celui de la substitution. Un gros mot, mais on va essayer de regarder ça ensemble à travers des exemples dans la parole. Et regardons encore une fois le verset ici. « Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste, c'est-à-dire Jésus, pour des injustes, c'est-à-dire nous. Et si Dieu pardonne le péché, comment pardonne-t-il le péché? Il doit le faire avec un substitut, un remplaçant. Quelqu'un doit être puni pour le péché parce que Dieu ne peut pas ignorer le péché. Si Dieu devait ignorer le péché, Dieu ne serait plus un Dieu saint, pas plus qu'un juge, serait considéré comme étant juste s'il négligeait de punir quelqu'un pour un crime. Si un juge devait dire « Mon cœur déborde d'amour, je vais oublier le viol, je vais oublier le meurtre, je vais oublier l'incendie criminel. Pardon, le pillage, peu importe la gravité, parce que je suis un juge qui déborde pour mon prochain, eh bien au moment même, ce juge serait considéré comme un criminel. Et si Dieu devait simplement oublier le péché pour sans le punir, Dieu tomberait de son trône de sainteté. » Dieu, qui est trois fois saint, est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et ce mot saint signifie que Dieu est tout le contraire et l'opposé du péché. C'est très difficile pour nous de saisir ça. Très difficile de saisir que Dieu est... Nous, on pense d'une certaine façon, on peut même voir le péché d'une certaine façon. Peut-être que ce matin, dans vos vies, le péché est encore attirant pour vous. Mais je peux vous dire une chose, jamais, jamais le péché sera attirant pour Dieu. Non seulement il est saint, mais il est trois fois saint. Il est sans péché, il est pur. On ne peut même pas évaluer le degré de pureté de Dieu. On n'est pas capable de se présenter devant lui dans notre corps mortel, et la Bible nous dit de ne pas mourir, tellement que la gloire de Dieu, non seulement va nous aveugler, mais elle va nous foudroyer. Alors le mot, Dieu est un Dieu juste et saint, et le péché doit être puni. Dieu ne peut pas ignorer le péché, donc le péché doit être puni. Non seulement Dieu est saint, mais Dieu est amour. Dieu doit donc trouver un moyen pour punir le péché et faire en sorte que nous soyons pardonnés. Alors, la parole nous dit qu'on est né avec le péché en nous. Donc, tout le monde vient au monde pécheur. Et hier, ça me rappelait, je me promenais à Médiacité, j'allais chercher ma fille, et je voyais une petite fille, elle n'était pas tellement haute. Hein. Ben, elle te pétait une de ses crises, ça ne devait pas être drôle pour ses parents, devant tout le monde. Hein. Ça circulait dans la Médiacité, elle se roulait par terre, puis non, maman voulait aller dans telle direction, mais le petit ange, là, qui est en train de perdre ses ailes, eh bien, lui, il voulait montrer une autre direction, quoi. Et c'est vrai qu'on vient au monde avec le péché qui habite en nous, hein. Ouais. Et on doit faire des efforts toute notre vie pour apprendre à nos enfants à faire le bien, mais faire le mal, vous n'avez pas besoin de leur dire, hein. C'est plutôt de leur dire, écoute, ça, c'est mal ce que tu fais. Et de leur expliquer de faire le bien. Et tranquillement, en vieillissant, on voit que le péché transpire, hein, transpire dans nos pores de peau. Et finalement, eh bien, la parole, on peut simplement confirmer ce que la parole dit. On est venu au monde avec le péché qui habite en nous. Et on a un cœur qui est tortueux par-dessus tout. Et même en tant qu'être humain, on ne connaît même pas jusqu'à quel point notre cœur est tortueux. La preuve, il y a des gens qui tuent des êtres qu'ils ont aimés. Et quand ils passent devant les tribunaux, aujourd'hui on appelle ça des crimes passionnels, et qui sont incapables d'expliquer pourquoi ils ont tué une personne qu'ils aimaient tant. On a vraiment un cœur tortueux. Heureusement qu'on a un Dieu qui est saint, qui est trois fois saint, et qui est capable de guérir ce cœur, qui est capable de nous en donner un nouveau à travers la personne de Jésus-Christ. Nous sommes nés avec le péché en nous, nous péchons tous, même si le monde dans lequel nous vivons rejette l'idée de crimes odieux qui sont commis sans le mot péché, sans mettre le mot péché. Mais le mot péché n'est jamais mentionné dans le monde d'aujourd'hui. Vous n'entendez plus parler du péché aujourd'hui. Quelqu'un qui vole à l'étalage dans des magasins, ce n'est pas un voleur, c'est un kleptomane, c'est une maladie. C'est une maladie, vous ne pouvez pas l'accuser, c'est une maladie. Quelqu'un qui a un gros problème de boisson aujourd'hui, qui est dépendant de la boisson, c'est pas un ivrogne. Pas mal le mot ivrogne, hein? L'ivrogne et l'ivrognerie, c'est un péché. Mais l'alcoolisme, c'est une maladie. Et c'est ça pour tout ce que la Bible appelle péché. On a trouvé une maladie pour faire finalement l'équilibre. Et les gens, plutôt que de se voir comme étant des pécheurs, vu qu'ils sont malades, ils se voient comme étant des victimes de la société. Et ça, c'est le gros problème. Ça, c'est le gros problème. Dieu qui est amour, par définition, a une sainte haine pour le péché. C'est pourquoi il avait un plan pour lequel le péché pouvait être puni, tout en faisant en sorte que l'homme puisse être pardonné. Et ce moyen, c'est le principe de la substitution. Dieu avait annoncé la croix de nombreuses années avant que Jésus vienne mourir sur cette croix. Tourne avec moi dans Genèse chapitre 22. On va prendre l'exemple de Genèse chapitre 22. Je pense que c'est un excellent exemple de la substitution. Vous allez voir que le grand mot que je suis en train de dire, qui est très, très théologique, on va vraiment le renverser et faire en sorte qu'il soit très, très pratique. Genèse chapitre 22. Nous allons regarder la vie d'un homme qui s'appelle Abraham. Qui est non seulement le père de la nation juive, mais le père de tous les croyants. Et Dieu avait dit à Abraham, « Je vais te donner un fils, et ce fils fera partie de ta lignée, et à travers ce fils, toutes les nations de la terre seront bénies. » On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore une fois te remercier. Te remercier d'être venu nous visiter il y a plus de 2000 ans. Et cette période, Seigneur, dans laquelle nous baignons, eh bien, nous rappelle, Seigneur, que toi qui es le créateur de tout ce qui, du ciel, de la terre, de la mer, et de tout ce qui s'y trouve, eh bien, Seigneur, tu t'es humilié, tu es venu, Seigneur, tu t'es fait homme dans la personne de Jésus-Christ pour venir nous sauver, pour venir nous racheter, pour venir nous réconcilier avec toi. Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce geste d'amour. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes depuis toute éternité. Merci, Seigneur, parce que ton sang est suffisant pour effacer tout péché. Et quiconque, Seigneur, te demande pardon, eh bien, tu es fidèle et juste pour lui pardonner tout péché. Ce matin, Seigneur, nous te demandons ton aide afin que tu puisses nous aider à comprendre ce passage en Genèse 22 et nous rappeler, Seigneur, que peu importe la religion que nous pratiquons, peu importe les œuvres que nous faisons, il n'y a aucune œuvre, aucune religion qui puisse effacer un seul de nos péchés, sinon le sang de Christ versé à la croix de Golgotha. Et c'est en Jésus que nous te prions. Amen. Dieu dit à Isaac, à Abraham, tu l'appelleras Isaac, qui signifie Dieu sourit ou rire, dépendant des versions, il fera la joie de ton cœur. Il sera le fils d'une prophétie, parce que je t'en parle et que je te donne son nom avant même qu'il soit né, tout comme le nom de Jésus fut donné avant même qu'il soit né. Et comme Jésus fut le fils d'une prophétie, ce fils, c'est-à-dire Isaac, viendra au monde d'une façon miraculeuse. Tu seras un vieillard. Quand ce fils naîtra, tu auras 100 ans, lui dit le Seigneur, quand il vient voir Abraham. Ton épouse Sarah, qui est non seulement stérile et qui a passé l'âge d'avoir des enfants et qui a vu humaine, ne peut plus avoir d'enfants, tombera enceinte. Elle aura un fils. Ce fils, toutes les nations de la terre seront bénies. Ce fils qui s'appellera Isaac sera une image, une prophétie dans l'Ancien Testament du Seigneur Jésus-Christ. Et on va regarder les versets à partir du verset 1. On va essayer de regarder les versets 1 à 14 rapidement ce matin. Mais le verset 1, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham! » Il répondit, « Me voici. » Dieu va éprouver la foi d'Abraham pour qu'il lui démontre jusqu'à quel point il aime ce Dieu qui lui a demandé de tout quitter pour lui. De tout quitter pour lui. Frères et sœurs, Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Eh bien, c'est exactement le reflet de ce que Dieu est en train de demander à Abraham. Frères et sœurs, si on veut une application pratique pour aujourd'hui, Dieu nous demande de tout quitter. de tout quitter ce qui appartient encore au monde dans notre cœur, de tout quitter, de tout délaisser ce qui appartient encore dans notre cœur où le monde y trouve encore sa place, parce que Dieu veut y occuper toute la place. Et Abraham, dans ce sens, Abraham est un exemple pour nous. Abraham est un exemple pour nous. Isaac avait environ 15 ans, peut-être un peu plus. Il est l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham. Et pourtant, le Seigneur demande à Abraham de lui rendre ce qu'il lui a donné. Quel test de foi pour cet homme! Imaginez! Pendant des années, Abraham avait partagé sa foi dans le Seigneur. Et voilà que maintenant, Dieu lui donne l'opportunité de prouver, de démontrer son amour envers lui. Frères et sœurs, c'est une chose de faire confiance à Dieu en attendant d'avoir une de ses promesses s'accomplir dans notre vie. Mais c'en est une autre de lui faire confiance lorsqu'il nous demande de lui rendre ce qu'il nous a donné. C'en est une autre. À vue humaine, la demande du Seigneur peut paraître cruelle, mais nous connaissons le résultat. Dieu est en train de nous montrer à travers Abraham qu'il y a des gens qui l'aiment plus que tout dans ce monde, même plus qu'eux-mêmes, y compris les membres de leur propre famille. Frères et sœurs, lorsque vous affirmez être chrétien, Dieu va vous éprouver, et ce pour deux raisons. Premièrement, pour vous montrer qu'il peut prendre soin de vous dans l'épreuve. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Pour vous montrer qu'il peut prendre soin de vous dans l'épreuve. Et jamais il va permettre qu'une épreuve survienne dans votre vie, qui soit au-delà de vos forces. Ce qui est encourageant, la parole nous dit à travers l'apôtre Paul que Dieu a déjà prévu le moyen de nous sortir de cette épreuve-là. Alors on peut prier, on peut pleurer parce qu'on est fort affecté par l'épreuve dans laquelle on vit, mais Dieu nous aime. Et ce que Dieu veut, c'est de nous faire grandir en Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est de nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Et moi, je ne dis plus le psaume 139, les versets 23-24, je les récite de moins en moins souvent parce que quand on dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je marche sur une voie, sur la voie qui est la tienne », le Seigneur, c'est bizarre, il me montre quand j'ai encore beaucoup de chemin pour ressembler à Jésus-Christ. Il me fait passer par toutes sortes d'épreuves. Dieu me prend au mot dans ma prière. OK, c'est vraiment le souhait de ton cœur. Eh bien, je vais te montrer ce à quoi encore ressemble ton cœur. Je vais te sonder. Et on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de crasse dans notre cœur qui traîne. Hein, beaucoup de crasse qui traîne. Ouais. Et le Seigneur, il purifie. Purifie encore avec le sang de Jésus. Il fait un nettoyage, il fait un ménage. Ouais. Et Dieu sonde autrement que les sondes que les êtres humains ont créées. Dieu va en profondeur, il va jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Là-même, on est incapable de voir ce à quoi nous ressemblons. Nous, on voit souvent surface dans notre cœur. Mais Dieu sonde, on lui demande de sonder. Dieu sonde. Il va jusqu'au plus profond de nous-mêmes, et il fait remonter en surface, souvent, ce à quoi on pensait s'être débarrassé. Alors, frères et sœurs, Dieu va nous éprouver en tant que chrétiens pour deux raisons, je viens de le dire, pour nous montrer, premièrement, qu'il prend soin de nous dans l'épreuve, mais deuxièmement, pour montrer au monde qu'il est digne de confiance. On vient de chanter tantôt dans les hymnes de la foi, le cantique numéro 392. Et qui dit, celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance. Et Dieu agit ainsi pour que son nom soit glorifié. Dieu agit dans votre vie, Dieu permet des épreuves dans votre vie pour que son nom soit glorifié. Dieu permet de vous amener à ressembler à Jésus-Christ pour que son nom soit glorifié. Amen. Ouais. C'est jamais pour nous faire du bien. C'est jamais pour nous rendre heureux. Mais si Christ est glorifié dans notre vie, on va être heureux. Et on va être dans la joie, et on va être dans la paix. Mais on passera jamais avant Jésus-Christ dans le cœur de Dieu, jamais. Il a payé tellement le prix élevé pour qu'il occupe toujours la première place dans votre vie et dans ma vie. Et Dieu veut qu'il soit glorifié. Verset 2, regardez, on parle du prix à payer, verset 2. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, plus que ta propre vie, Isaac. « Va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je t'indiquerai, que je te montrerai. » Abraham devait avoir le cœur brisé, frères et sœurs. Après tout, Isaac représentait toutes les promesses que Dieu lui avait faites. Si Isaac mourait, alors les promesses de Dieu, les promesses que Dieu avait faites à Abraham n'avaient plus aucun sens. Si Isaac mourait, alors tous les espoirs d'Abraham mouraient avec lui. Et malgré cette terrible nouvelle, nous ne voyons en aucun moment Abraham essayer de négocier avec Dieu, négocier un compromis avec le Seigneur. Comme nous le verrons, ce père dont le cœur est brisé en mille morceaux était prête, en a payé le prix parce que Dieu lui demandait. Parce que ça venait de Dieu, et Abraham était prêt à en payer le prix. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts à payer le prix pour abandonner des choses qui n'appartiennent pas à Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à en payer le prix? Comme Abraham. Dieu ne nous demande pas de sacrifier un fils. Dieu nous demande de sacrifier quelque chose du monde qui est encore en nous pour qu'il y occupe toute la place. Et c'est une preuve d'amour pour nous envers le Seigneur. Et c'est aussi un acte de foi parce que Dieu va compenser par quelque chose de meilleur. Et je ne m'exclus pas hein, quand je parle comme ça. Hein. Le Seigneur, c'est à moi qui ai parlé hein, en premier. Est-ce qu'on est prêt à en payer le prix comme Abraham? Est-ce qu'on est des chrétiens de surface, des chrétiens du dimanche, qui rentrent à l'église avec un beau sourire? Est-ce qu'on est convaincu quand on rentre ici le dimanche que Dieu a une parole à nous adresser? Est-ce qu'on est convaincu que la parole qu'il va nous adresser, c'est pour nous faire grandir? C'est pour nous permettre de nous remettre en question afin qu'on grandisse? Qu'on puisse louer le Seigneur pendant toute la semaine à la maison parce que le Seigneur nous aura parlé à travers la louange, à travers le message, à travers les témoignages des frères et sœurs? C'est une bonne question à laquelle on peut se poser ce matin. Pourquoi on vient à l'église le dimanche? Si on n'est pas prêt, après avoir entendu la parole de Dieu, mettre en pratique ce que Dieu nous a enseigné. De même, le Seigneur nous a montré jusqu'à quel point il nous a aimés. Alors que nous étions encore pécheurs, nous dit la parole. Christ est mort pour nous, Christ a pris notre place sur la croix. Il ne faut jamais se rendre coupable de penser que le salut est une chose qui a peu de valeur au point de le prendre à la légère. Notre salut a coûté la vie du Seigneur Jésus sur la croix. Le prix à payer fut la douleur, l'agonie et la mort. On l'a chanté tantôt dans le cantique, juste avant la Sainte-Cène. Et Jésus a accepté de payer le prix. Pourquoi il a accepté de payer le prix? Pourquoi? Parce qu'il vous aimait, parce qu'il m'aimait. Frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, on n'est pas en train de s'embarquer sur un système de performance. Mais la seule façon de démontrer à Dieu qu'on l'aime, c'est d'obéir à sa parole. C'est pas « j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose ». Non, le Seigneur, il dit pas « je veux pas que tu fasses, je veux que tu sois ». Le religieux, le pharisien qui dort en nous, parce qu'un pharisien qui sommeille dans le cœur de tout le monde, c'est « fait des choses pour Dieu ». Le Seigneur dit « non, c'était fait, déjà ». Tout est accompli. Je veux que tu sois semblable à Jésus-Christ. Et mon frère et ma soeur, si tu es né de nouveau ce matin, je peux te dire une chose, Dieu ne te laissera pas tranquille. Il va jouer avec tes baskets, il va s'organiser pour transformer ta vie. Tu vas pleurer, mais ce seront des larmes où tu rendras gloire à Dieu. C'est souffrant en payant un prix. Hein? C'est souffrant. Ça fait mal. Et on résiste souvent à Dieu, et dans ma vie, ça m'est arrivé, on résiste souvent à Dieu parce que on ne veut pas que ça nous fasse mal. On préfère souvent ne pas délaisser un péché, ne pas abandonner telle chose qui déplaît à Dieu, plutôt que de souffrir parce que ça nous fait mal. Et le jeu du malin, c'est de nous faire oublier la bénédiction qui accompagne cet abandon. Abraham recevra une grande bénédiction parce qu'il aura abandonné ce que Dieu lui avait donné, parce qu'il était prêt à abandonner ce que Dieu lui avait donné. Nous étions tous errants comme des brebis, c'était chacun pour soi, chacun suivait sa propre vie, dit Isaïe, et Dieu a fait subir à Jésus les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter sans protester, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau, qu'on mène à l'abattoir comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Versets 3 et 4, regardez ce qui est écrit. Abraham va se conformer à ce que Dieu lui a demandé. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui les deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour le sacrifice et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Donc, c'est quand même une certaine distance, trois jours pour partir de son domicile et se rendre là où Dieu l'appelait. Frères et sœurs, Abraham n'a jamais hésité. Il a simplement rassemblé ses choses qu'il avait besoin, les choses qu'il avait besoin pour adorer Dieu à travers un sacrifice, et il s'est dirigé vers l'endroit que Dieu lui avait dit. Ses pensées étaient concentrées, frères et sœurs, sur ce que Dieu lui avait demandé de faire. Quel homme de foi! Le voyage n'a sûrement pas dû être de tout repos pour Abraham. Vous imaginez Abraham qui s'en va avec son fils, peut-être à côté de lui, peut-être que le fils est en avant, peut-être que le fils est en arrière. Et la pensée d'Abraham qui dit, je m'en vais sacrifier mon fils. Je vais sacrifier mon fils. Celui que j'ai attendu depuis tant d'années. Dieu m'a demandé quelque chose d'incroyable. Je m'en vais sacrifier mon fils, c'est ce que Dieu m'a demandé. Et j'obéis. Parce que Dieu me l'a demandé. Le voyage n'a sûrement pas dû de tout repos pour Abraham. Souvent, on lit le texte, chapitre 22, mais on en ressort toutes les émotions, tous les sentiments. Mais Abraham demeure un être humain. Il est chrétien, mais il demeure un être humain. Ça ne devait pas avoir été un voyage facile pour lui. Quel homme de foi! Au combien cela nous rappelle ce qu'a vécu notre Père céleste. Il devait avoir le cœur brisé de savoir que les hommes qu'il avait créés à son image avait péché contre lui et qu'il devait mourir. Pourtant, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il avait déjà préparé un plan pour payer le prix exigé pour sauver l'homme. Il savait le sacrifice qui devait être fait. Il a accepté d'en payer le prix en offrant en sacrifice son fils Jésus. Chers amis, le Seigneur connaissait l'endroit qu'il avait demandé à Abraham de se rendre. Lorsqu'il a créé ce monde, il savait qu'il demanderait un jour à Abraham d'offrir son propre fils à Isaac, qu'il aimait tant en sacrifice. Mais il savait aussi autre chose concernant cet endroit. Il savait que plusieurs siècles plus tard, la même montagne, le mont Moria, serait connue sous un autre nom. S'il serait connu sous le nom du mont du Calvaire, où Jésus serait crucifié, où Jésus serait votre substitut. Dieu savait tout ça depuis toute éternité. C'est le même mont où Jésus sera sacrifié, où Jésus prendra votre place plusieurs siècles plus tard. Il savait que son fils qu'il aimait tant, le Seigneur Jésus-Christ, mourrait sur une croix, là, à ce même endroit, pour sauver l'homme. Et même s'il savait tout cela, il a quand même voulu créer cet endroit, que son nom soit béni éternellement d'avoir un jour prévu cet endroit, afin qu'un jour Jésus meure pour moi. Verset 5. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit indiqué, Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Il y a deux grandes vérités que j'aimerais souligner dans ce verset, rapidement. Même si Abraham était venu ici pour sacrifier son fils, il avait prévu de tout emporter pour adorer son Dieu. Et lorsque vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, tout ce que vous faites constitue une forme d'adoration devant lui. C'est ce que Paul nous rappelle dans Colossiens chapitre 3, verset 17, frères et sœurs. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que nous faisons va faire en sorte de glorifier le Seigneur. Abraham avait toujours la même foi, même s'il se préparait à tuer Isaac, parce qu'il savait que Dieu, malgré tout, tiendrait ses promesses. Dieu avait promis de bénir Abraham, Dieu avait promis de le rendre fécond, Dieu avait promis de le multiplier à l'infini. Il avait dit à Abraham, Isaac engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Pourtant, Abraham devait savoir qu'un homme mort ne pouvait pas avoir d'enfant. Comment pouvait-il croire que Dieu tiendrait sa promesse? L'auteur de l'Épître aux Hébreux répond à cette question pour nous dans Hébreux chapitre 11, verset 19. Tourne avec moi dans Hébreux chapitre 11, verset 19. Abraham estimait que Dieu avait le pouvoir puissant de ramener Isaac de la mort à la vie, et Abraham reçut de nouveau Isaac, qui lui fut, pour ainsi dire, ramené d'entre les morts. Abraham avait foi en Dieu. Abraham savait que même s'il tuait Isaac, Dieu avait la puissance de le ramener à la vie. Voilà pourquoi il va dire à ses serviteurs, regardez ce qu'il va dire à ses serviteurs dans Genèse chapitre 22. Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Il ne dit pas et je reviendrai auprès de vous. Si Abraham ne croit pas à la résurrection des morts, il dit et je reviendrai auprès de vous. Abraham part avec l'idée qu'il doit sacrifier son fils, mais il garde aussi dans l'idée que Dieu va ressusciter son fils, peu importe ce qui va survenir. Et il est capable de dire à ses serviteurs, « Nous reviendrons. Nous reviendrons. Pas « Je reviendrai. » Nous reviendrons. » Frères et sœurs, je l'ai déjà dit à quelques reprises depuis quelques mois, le slogan des chrétiens de l'Église primitive, c'était pas « Nous croyons en Jésus-Christ crucifié. » Nous croyons en la résurrection des morts. Nous croyons en la résurrection des morts. Abraham, croyant à la résurrection des morts, voilà pourquoi il est capable de dire « Et nous reviendrons auprès de vous. » Ainsi en est-il avec le Seigneur Jésus. Dieu savait que son Fils devait aller sur la croix, mais Dieu connaissait déjà la fin de l'histoire, avant même qu'elle commence. Il savait que lorsque Jésus mourrait sur cette croix, ce n'était pas la fin de tout. Dieu savait lorsque Jésus mourrait, il le ramènerait de la mort à la vie 3 jours après sa mort. Et c'est ce que le psalmiste nous rappelle dans le psaume 16, verset 10. Verset 6 à 8, Abraham agit. Abraham prit le bois pour le sacrifice, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors qu'ils grimpent sur la montagne, Abraham charge le bois sur le dos de son propre fils, Isaac, qui porte finalement le bois sur lequel il mourra. Il porte le fardeau de la mort sur ses épaules, frères et sœurs. Et combien cela me rappelle le Seigneur Jésus-Christ, qui lui a aussi porté le fardeau de la mort sur ses épaules, en portant le bois sur lequel il allait mourir. Mais il a porté de plus grands fardeaux que nous ce jour-là. Ésaïe chapitre 53, verset 4. Mais il a porté, car ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Frères et sœurs, lui qui était sans péché, Dieu l'a chargé de notre péché, afin que par lui nous puissions bénéficier de l'œuvre par laquelle Dieu nous rend justes à ses yeux. Je suis heureux que Jésus a complété l'œuvre pour laquelle le Père m'a envoyé. Frères et sœurs, Christ a non seulement pris nos péchés, il nous dit aussi, apportez-moi vos fardeaux, apportez-moi vos souffrances, apportez-moi vos abus. Ne le faites pas en prière et après repartez avec. Apportez-moi. Apportez-moi. Et il y a un échange qui se passe à la croix chaque fois qu'on lui donne. On lui donne nos fardeaux. Dieu, en Jésus-Christ, nous donne son amour. Remplit notre cœur d'amour. Viens penser cette blessure, cette guérison qu'on traîne depuis tant d'années. Pourquoi il y a des gens qui sont délivrés de la boisson? Pourquoi il y a des gens qui sont délivrés de la drogue? Parce que Dieu les aime plus que les hommes. Pourquoi il y a des gens qui sont délivrés des abus de toutes sortes? Parce que Dieu les aime plus que les autres? Non. Ils ont saisi à la croix qu'il y avait cet échange. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je pourrais même aller plus loin et dire de porter vos fardeaux. Donnez-moi-le, j'ai la capacité de les porter. Et en retour, je vais vous donner une portion de mon amour qui va guérir ce qui vous fait tant souffrir, qui va vous délivrer de ce qui vous rend tellement esclave. À la croix, non seulement je vous accorde le pardon de vos péchés, mais je vous délivre de vos péchés, nous dit le Seigneur. C'est pas moi qui l'invente. Non seulement on reçoit le pardon, mais la délivrance. Mais encore une fois, c'est une question de foi. Je viens me mettre au pied de la croix par la foi pour recevoir le pardon de mes péchés, mais j'oublie aussi souvent que je dois venir au pied de la croix pour recevoir la délivrance de mon péché. Mon péché, il est pardonné. Mais il y a combien de combats par après? Combien il y en a qui luttent encore? Et qui sont remplis de doutes parce qu'ils n'ont pas cette délivrance? Non, mais tu viens à la croix, viens à la croix. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole, c'est Paul qui le dit. Non seulement vous avez reçu le pardon de vos péchés, mais aussi la délivrance sur le péché. Moi, je ne vous ai jamais partagé mon témoignage, jamais. Tout simplement parce que c'est un témoignage qui n'est pas édifiant. Moi, je devrais être un cas d'asile psychiatrique si je regarde les gens du monde, là, si on devait m'examiner, m'analyser tout ce que j'ai vécu, moi, depuis que je suis petit. Je suis un cas de psychiatre, moi. Ouais. Mais je peux glorifier le Seigneur Jésus parce que là où j'ai eu besoin de délivrance, le Seigneur me l'a donné à la croix. Et je peux vous rendre témoignage que Dieu va encore délivrer aujourd'hui. Ouais. Les abus de toutes sortes, j'en ai connu. Il manquait me faire tuer trois fois dans la police. Attends, vous pointez un 38, là, quel canon pas plus gros que ça. À un mètre du visage, vous voyez le canon gros comme un tuyau de poêle, hein? Ça se déconnecte ici, hein? Ouais. Et j'étais pas sauvé, hein? Ouais. Ouais. J'ai une vie misérable et Dieu aujourd'hui, eh bien, trouve le moyen de se glorifier à travers un homme comme moi. Qui n'a aucune capacité. Sinon celle qui peut trouver en Jésus-Christ. Et si je suis qualifié, c'est pas à cause de ma connaissance. J'ai aucune mémoire, je retiens rien, ça me choque, ça me frustre de portonner mes versets, de me tromper de livre, d'épître, quand je cite un verset. Je ne suis pas qualifié humainement parlant pour prêcher. Je ne suis pas qualifié humainement parlant pour servir le Seigneur. Il n'y a personne qui est qualifié pour le servir par ses propres forces. C'est en Christ qu'on est qualifié. Amen. Ouais. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit « Mon père ». Et Abraham répondit « Mais voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Isaac savait qu'un sacrifice ou du sang versé était exigé afin de pouvoir entrer dans la présence de Dieu dans l'adoration. Hein? On appelle ça un holocauste hein, dans l'Ancien Testament. Retenant ses larmes, Abraham va faire une des plus grandes déclarations, selon moi, que nous retrouvons dans la Bible. Pardon. Il dit une des plus grandes. Hein? Il va dire, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. » En d'autres mots, « Mon fils, Dieu, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau pour le sacrifice. » Frères et sœurs, c'est une application pour nous aussi. Dieu est ce Dieu qui pourvoit. Dieu est ce Dieu qui pourvoit à la guérison. Dieu est ce Dieu qui pourvoit pour nous faire grandir. Dieu est ce Dieu qui pourvoit pour nous délivrer. Dieu est ce Dieu qui pourvoit pour accomplir ses promesses dans nos vies. Mais comme Abraham, le juste vivra par la foi, nous dit la parole. Et Paul va beaucoup plus loin que ça dans Romains chapitre 1, versets 16 et 17. « Le juste vivra par la foi et pour la foi. » Paul rajoute un élément de plus. Tout est une question de foi. Pourquoi vous pensez que le diable vient toujours nous mettre le doute? C'est là qu'il gagne. Notre défi, c'est de marcher par la foi. Et en cela, on peut voir Isaac, pas Isaac, mais Abraham, il n'y avait pas tous ses livres. Il ne connaissait pas la parole de Dieu, mais il connaissait le Dieu de la parole. Et il savait ce que le Dieu de la parole était capable de faire dans sa vie. Il savait que le Dieu de la parole, c'était quelqu'un, quand il promettait quelque chose, il accomplissait. Frères et sœurs, combien de passages on lit, combien de promesses qu'on a dans la parole, et combien par la foi, parce qu'on manque de foi, on ne s'approprie pas ces promesses-là. On se dit, c'est pas pour moi. Ah, c'est pour un autre. Non, je ne suis pas bon, je ne suis pas assez bon, mais c'est pas pour moi. Et là, on a un nom dans la tête. Ah, c'est sûrement lui. Ah, c'est sûrement elle. Frères et sœurs, Abraham, il n'avait pas ça. Au moment où Abraham vit, la loi, elle est pas, Moïse, il n'a pas écrit rien, il n'a rien écrit, Moïse, encore. Mais Abraham, il connaissait le Dieu de la parole. Et c'est un homme de foi. Et il fait partie de la liste des héros de la foi. Pourquoi? Parce qu'il vivait en fonction de ce que le Dieu lui disait. Et frères et sœurs, c'est notre gros souci aujourd'hui. On a de la difficulté, on a tout ce qu'on a besoin. Tout ce qu'on a besoin pour voir Dieu accomplir des miracles dans nos vies. Bon, on est tellement attaché à tellement de choses avant de s'attacher à Dieu, que Dieu, souvent, on ne voit pas les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. La puissance de Dieu devient inefficace dans nos vies. Alors que Dieu veut déverser, non seulement sa grâce, mais sa puissance, manifester sa puissance à travers ses enfants. À un point tel que, c'est en Europe que le christianisme diminue dans le monde entier. C'est en Europe. En Afrique, les musulmans se convertissent, hein, par poignée, hein, par poignée. Par poignée. Il ne faut pas les juger, les musulmans. Hein. Il y a des fanatiques dans toutes les religions, y compris dans la religion évangélique. Hein. On appelle ça le légalisme. suis convaincu que Dieu a à cœur les musulmans, comme il a à cœur les catholiques, les orthodoxes, comme il a à cœur certains évangéliques qui vivent une religion, qui ne sont pas sauvés. Dieu veut que tous parviennent au salut et à la connaissance de Jésus-Christ. Versets 8 et 9, dernière partie du verset 8 et 9. Et ils marchèrent tous ensemble lorsqu'ils furent, ils marchèrent tous deux ensemble lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Vous vous rappelez qu'Abraham, frères et sœurs, Abraham est un vieil homme âgé de 115 ans. 115 ans. Bon, on va dire que ce n'est pas la même époque. Moi, j'en ai 66, les os commencent à me faire mal. Lui, il en a 115. Hein. À 100 ans, il a eu son fils. 115 ans. Et vous comprenez que Isaac est un jeune costaud, hein, plein de vigueur et de force, et qu'il aurait pu maîtriser son père ou fuir à n'importe quel moment. Mais il va obéir à la voix de son père et il va tendre les poignets. Il va tendre les poignets. Isaac était prêt à obéir à son père. Et ce, même jusqu'à la mort, frères et sœurs. Et spirituellement, ça devrait être la même chose pour nous. Jusqu'où sommes-nous prêts à nous rendre pour obéir à Dieu dans ce qu'il nous demande? Encore une fois, cela nous rappelle le Seigneur Jésus. Il n'était pas forcé d'aller sur la croix et de subir cette mort horrible. Non, il a volontairement accepté de donner sa vie sur cette croix pour nous. Il a dit, personne, dans Jean chapitre 10, verset 18, « Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, dit Jésus. Voici le Fils qui se soumet volontairement à son Père en disant, « Que ma volonté, que ta volonté se fasse et non la mienne. » Versets 10 et 12, « Dieu pourvoit. Puis arrive, c'est ce que je crois, un des moments les plus émouvants de l'histoire de l'homme après la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel, nous dit le texte, l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham! » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Au moment où Abraham s'apprêtait à tuer Isaac, Dieu l'arrête. Il s'adresse à nouveau à lui, il pourvoit un substitut pour Isaac, un remplaçant. Frères et sœurs, est-ce que Dieu s'attendait à ce qu'Abraham tue son fils, selon vous? Ben oui. Est-ce qu'Abraham aurait tué son fils si Dieu n'était pas intervenu? Ben oui. Tout se résume en un seul mot, la grâce. La grâce, frères et sœurs. Dieu a pourvu un substitut pour Isaac à cause de sa grâce incomparable et infinie. Dieu s'est arrangé pour pourvoir aux besoins d'Abraham et d'Isaac. À travers ce passage, Dieu nous enseigne un principe important, celui de la substitution. Dieu avait cela en tête, il savait ce qu'il allait faire. Abraham, lui, ne le savait pas, mais Dieu le savait. On voit ça souvent dans les sports. Hein? Je vais vous parler du hockey. Au foot, je ne sais pas. Bon, hockey, vous avez droit à 23 joueurs de hockey sur un banc durant un match. Et quand il y a quelqu'un qui est... Et pourquoi on a 23 alors qu'on en a besoin juste de 5 à la fois? Il y a 4 lignes. 4 fois 5, ça fait 4 fois 5, ça fait 20 joueurs. Pourquoi on a 3 joueurs de plus? Ce sont 3 substituts. Si un joueur qui est blessé, on va faire entrer un substitut sur la glace pour le remplacer, puisque celui qui est blessé est incapable de continuer à jouer. Concernant le sacrifice, le pardon de nos péchés, on est incapable d'effacer par nous-mêmes nos propres péchés. Dieu trouve un substitut, un remplaçant. Ça ne lui donne rien de prendre quelqu'un qui a autant de péchés que nous, qui en a un peu moins que nous, il est aussi coupable que nous. Dieu trouve en Jésus-Christ un innocent. Un innocent va nous remplacer, va être sacrifié pour des coupables comme nous, comme vous et comme moi. C'est en cela qu'on appelle ça la substitution. Dieu trouve un remplaçant pour subir le châtiment, la punition que nous méritions à cause de nos péchés. Verset 13-14, Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier ou un agneau, dépendant de votre parole, de votre Bible, retenu dans un buisson par les cornes. Alors, je pense que c'est un bélier. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le verset 14 souligne son but. La seule raison pour laquelle le bélier se trouvait là, c'était pour prendre la place d'Isaac sur l'autel. Abraham n'avait pas remarqué le bélier parce qu'il ne recherchait pas un substitut, mais tandis que lui, Isaac, montait d'un côté de la montagne, je crois que Dieu faisait monter le bélier de l'autre côté pour, justement, arriver au bon endroit au bon moment. Il est envoyé ce bélier par Dieu pour prendre la place d'Isaac. Abraham, les yeux remplis de larmes, je suis persuadé qu'Abraham devait pleurer, mais les yeux remplis de larmes de gratitude, délie les mains de son fils Isaac et il va se saisir du bélier pour l'offrir en sacrifice à la place d'Isaac. On ne doit pas s'étonner si Jésus a dit un jour aux pharisiens, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Il l'a vu et il s'est réjoui. On n'a pas toute la révélation que Dieu a donnée à Abraham. On a ce qu'on a besoin pour notre sanctification et pour progresser dans notre connaissance de la personne de Jésus-Christ. Mais Jésus va dire dans Jean chapitre 8, 56, aux pharisiens qui l'agressaient, « Votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Abraham savait que ça prenait un agneau sans tache pour effacer ses péchés. Abraham savait, et il savait qu'il ne pouvait pas voir ses péchés effacés tant aussi longtemps que cet agneau ne serait pas sacrifié. Comme Isaac, chaque pécheur est condamné à subir une mort terrible. En fait, tous les pécheurs sont sur le chemin de l'enfer. Cependant, tout comme ce bélier, le Seigneur Jésus-Christ est devenu notre substitut sur la croix. Frères et sœurs, placez-vous dans les souliers d'Isaac le jour où son père lui a délié les mains et qu'il a pris ce bélier qui lui a dit, qui a pris ce bélier, l'a lié, l'a placé sur le bois et qu'il l'a égorgé. Moi, je peux voir les larmes d'Isaac couler sur ses joues, tandis qu'il regarde ce bélier qui est saigné à mort sur ce bois. Isaac, frères et sœurs, il savait qu'il aurait dû mourir et que s'il vivait, c'est parce qu'un autre avait pris sa place. Et frères et sœurs, je trouve que c'est une belle illustration pour nous. Frères et sœurs, si Jésus ne vient pas, on est tous condamnés à mourir pour l'éternité. Jean chapitre 3, verset 16, est beaucoup plus direct. Il dit, on est tous appelés à périr. Et le mot périr signifie qu'il y a une vie après la mort. Et Isaac devait être reconnaissant auprès du Seigneur. Hey, c'est moi qui aurais dû être là. C'est moi. Merci Seigneur d'avoir trouvé quelqu'un me remplacer. Merci pour ce bélier. Et ce matin, en action de grâce, on peut remercier le Seigneur. Seigneur, merci d'avoir envoyé Jésus-Christ prendre ma place. Merci. Merci, Seigneur. Verset 14. Est-ce que cela remplit votre cœur de gratitude, frères et sœurs, de savoir que Jésus est mort afin que vous puissiez vivre pour l'éternité? Ouais. Alors, qu'est-ce qui est écrit au verset 14? Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu a pourvu lui-même à l'agneau. Sur le mont du Calvaire, c'est l'ancien mont Moria, là même où le bélier a été sacrifié, plusieurs siècles après, Dieu va pourvoir à l'agneau aussi. Dieu va pourvoir un substitut pour vous. Dieu va pourvoir un remplaçant pour vous qui va prendre sur lui votre péché en sacrifice. Il va se sacrifier pour chacun de nous. Le bélier à la place du Fils. Jésus à notre place. C'était une déclaration prophétique parce que plusieurs siècles plus tard, Jésus-Christ mourra sur la même montagne, je le répète, sur la même montagne. Il ne mourrait pas seulement pour Isaac, mais il mourrait pour vous, il mourrait pour moi. Et de la même manière que Dieu a pourvu pour un bélier pour Isaac sur le mont Moria, il a pourvu pour un agneau pour vous et moi sur le mont du Calvaire. Frères et sœurs, on a un Dieu merveilleux, un Dieu qui ne nous doit absolument rien. Et c'est vrai qu'on a un sapin, c'est le sapin de Noël. On essaie d'y trouver un autre nom maintenant, mais parce qu'on a une société qui sombre dans le paganisme. Mais on n'est pas là non plus pour garder nos yeux sur le sapin, puisque le sapin ne sauve pas personne. Il est condamné à mourir. Celui-là, c'est un artificiel, c'est vrai. Bon, il est là pour vivre encore assez longtemps. Même quoi qu'il n'y a pas de vie, hein? Quoi qu'il n'y a pas de vie. Donc, il n'y a jamais eu de vie, il n'y en aura pas de vie non plus, c'est un artificiel. Mais la période de Noël est là pour nous rappeler le grand geste d'amour que Dieu a fait. Ça commence à la naissance, ça se poursuit à la crucifixion, ça se continue avec la résurrection. Et on sait en tant que chrétien que tôt ou tard, bientôt, Jésus revient nous chercher. Revient chercher ceux qui ont accepté que Jésus prenne leur place sur cette croix et qu'ils subissent la condamnation, la punition, le châtiment que nous méritions pour nos péchés. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que Dieu ne vous voit pas à travers les péchés que vous avez commis, mais Dieu vous voit à travers l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour vous, pour moi. Ça, c'est magnifique, frères et sœurs. Et en cela, si vous avez placé tous ici présents ce matin, vous avez placé votre confiance dans ce sacrifice, eh bien, vous êtes appelés, vous êtes condamnés à passer l'éternité avec moi, et moi pour et moi avec vous aussi, parce que, par la grâce de Dieu, on a tous été rachetés, sauvés. Amen. Alors, apprenons à vivre ensemble dans la paix, dans la joie, parce qu'on est appelé à passer l'éternité ensemble. Et le Seigneur ne nous décevra pas. On a vu il y a quelques semaines les sept réalités qu'il y a au ciel. Et le Seigneur, non seulement ne décevra pas, mais il nous réserve de grandes choses. Et Jésus-Christ nous a dit, et si ça n'avait pas été vrai, je ne vous l'aurais pas dit, ça va nous préparer une place là-haut. Il est en train de nous préparer une demeure pour nous. Et ça va être quelque chose de magnifique. Nos maisons, nos cabanes, notre argent, tout ce que nous avons, ça va nous paraître de la boue par rapport à tout ce que Dieu est en train de nous préparer. Amen. On prend un moment pour prier. Je vais inviter notre sœur Edwige à venir au piano.